Bon, bonjour tout le monde. La soirée du Seder est importante, mais on peut faire une quantité assez importante de gaffes. Et donc, un des buts de notre étude, ça sera d'éviter les gaffes. Il y a ce qu'on appelle les halakhot du Seder. Il y a le bon déroulement du Seder. Et il y a parfois des confrontations inutiles avec la famille autour de ça. Ne serait-ce que parce qu'il y a parfois des traditions différentes qui sont transmises de génération en génération dans les familles et qui ne sont pas toujours les mêmes que celles que vous avez pu lire dans tel ou tel livre. Et comme vous êtes plein de zèle pour la Torah, vous risquez de faire des gaffes et d'imposer vos opinions alors qu'en fait, vous n'avez pas assez étudié pour remettre en question ce qui se fait dans la famille. Ça ne veut pas dire que ce qui se fait dans la famille est toujours bien, mais il faut beaucoup de psychologie. À part ça, si je peux donner quelques conseils, il y a un enthousiasme énorme. Vous avez ici des agadotes, pourquoi ne pas s'en servir? C'est à la page 616.
C'est à la page 616?
Pourquoi je me mêle? Donc un des problèmes, c'est par exemple que quand on a étudié dans une yeshiva ou au Machon Meir, quelque chose de ce genre, on est bourré d'enthousiasme par les choses qu'on a appris, par exemple dans les cours du Rav Cherki, tous ces machins-là, on dit c'est extraordinaire, je vais leur en mettre plein la vue. C'est-à-dire que les gens en général sont fatigués, et puis ils ont d'autres occupations, et donc il faut savoir à quel moment introduire toutes les choses qu'on a envie de dire. Il faut se préparer à l'avance. Pendant le texte de la Haggadah, la lecture même de la Haggadah qu'on appelle le Maggid, il est bon de ne pas dire plus de trois choses. Si vous avez un chidouche, un, deux ou trois chidouchim à tout casser, c'est là que vous les placez, et le reste, vous les laissez pour le moment du repas. Parce qu'au moment du repas, c'est là qu'on parle de politique et de sport, et que c'est justement le moment où il faut, puisque c'est un repas important, il est au milieu du Hallel, c'est un moment sacré, pourrait-on dire, il est bon d'introduire à ce moment-là des divrei Torah. D'accord ? Mais enfin, faites bien attention, il y a aussi un but très important dans la soirée du Seder, c'est que tout le monde soit réveillé jusqu'au bout. Or, en général, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé avant, et donc la tendance naturelle, c'est de s'assoupir, et donc il faut faire tout avec un certain dynamisme, pas à la va-vite, mais quand même avec un certain dynamisme pour qu'on puisse arriver le plus vite possible à l'accomplissement de l'ensemble des mitzvot de la soirée du Seder. Voilà, c'est donc le truc important. Si vous avez une quelconque influence sur votre entourage et votre famille, amenez-les à faire ce que moi je fais. En début d'après-midi, la sieste, c'est-à-dire, on ferme les volets, on débranche le téléphone, on débranche le portable, on met un avis sur la porte, ne nous dérangez pas, nous dormons. Si par exemple il y a des gens qui veulent vous amener un cadeau pour le soir du Seder ou une partie des repas, des plats, etc., vous pouvez entrer sans faire de bruit, poser ça sur la table. D'accord? De sorte que comme ça, si vous arrivez à dormir 1h30 à 2h, avant la soirée du Seder, toute la famille, y compris les personnes qui travaillent le plus, souvent les femmes, alors vous avez passé une soirée inoubliable, extraordinaire. Tandis que sinon, c'est terrible, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est le supplice. Donc le supplice du Seder, c'est vraiment pas nécessaire. Il y a ce qu'on appelle les numéros de téléphone des rabbins. Pour toutes les questions de cachot et autres, faites-le à l'avance, le plus tôt possible, pour ne pas avoir de problème. À part ça, veillez à ce qu'il y ait assez d'ingrédients pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun ait de quoi manger le nombre nécessaire de kazaïdes de matzah à l'avance pour l'ensemble des convives, la quantité nécessaire de vin pour l'ensemble des convives, de même maror, karpas et tout le reste. Est-ce que là vous suivez ? Très bien. Bon, maintenant il y a un déroulement du seder qui est extrêmement facile à se rappeler, c'est les 12 mots-clés, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yaras, etc. C'est heureusement que la Haggadah est bien écrite, elle est bien imprimée, j'ai presque pas besoin de vous l'enseigner, mais quand même, vous, on essaie de nous rappeler de quoi ça a l'air. Il y a, dans les mitzvot, il y a une série de mitzvot qu'on fait le soir du seder. Certaines, une partie de ces mitzvot demande d'être accoudée. N'est-ce pas? Alors, l'accoudement, c'est un des supplices du seder, pour une raison très simple. C'est qu'en général, la maîtresse de maison met son beau service de fête sur la table, avec les couverts et les verres. Et en plus, il y a les agadotes. Et il faut encore trouver un endroit pour placer son coude dans tout ça. Alors, si vous avez une certaine influence, dites à maman, voilà, les piles d'assiettes, tu vas les mettre au milieu de la table ou à côté. Et c'est seulement quand on arrive au repas qu'on va les distribuer. Pour l'instant, au début, il n'y a que les agadotes et un verre. Chacun a sa magada et son verre. Le verre doit être petit. Pas un petit verre à liqueur, mais assez petit pour qu'il contienne une quantité de vin qui n'exige pas une grande boisson. Pourquoi? Parce qu'il faut, d'après la halakha, boire la majorité du verre. Alors, si le verre est grand, ça vous fait un demi-litre, quoi. Alors, après, vous arrivez au milieu du seder, vous êtes déjà sous la table. Tandis que si le verre n'est pas trop grand, ça va. Hein? Un gobelet de 20 centilitres ne suffit pas. Non. Non, il faut un verre de 86 centilitres et en boire la majorité, c'est-à-dire 44. Hein? 8,6 centilitres. C'est-à-dire 86 millilitres. Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Oui, millilitres. Oui, oui. Voilà, effectivement. Et donc, vous avez 44 millilitres et vous avez fait la majorité. Maintenant, si le verre est plus grand, vous devez boire plus. D'accord? Maintenant, si vous ne supportez pas le vin, prenez du jus de raisin. Si vous supportez le vin, c'est très bien. Recommandation, un mélange de jus de raisin et de vin est meilleur. Quand vous prenez que du jus de raisin, alors c'est trop sucré et en général ça fait une sorte de nausée. Si vous prenez que du vin, c'est un peu fort. Si vous faites un mélange, c'est sympa. Voilà.
Là, on a quitté, il
n'y
a pas de...
Hein? Oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. Maintenant, autre chose. Il y a donc, je parle ici de l'accoudement. L'accoudement est un des trucs les plus problématiques. L'accoudement doit se faire pour les quatre verres, pour la matzah, korer et afikoman. D'accord? Seulement. Et les quatre verres, matzah, korer, afikoman. Ça vous fait donc sept fois où il faut être accoudé pendant la soirée du seder. L'accoudement est un signe de liberté. C'est des hommes libres qui sont accoudés. Pourquoi? Ben parce que c'était comme ça dans la civilisation antique. On faisait des repas sur des lits. On était allongés. N'est-ce pas? Et on amenait en général un sanglier ou deux. Et c'était la joie, quoi. Il y avait les danses, il y avait le vin, etc., la coupe de vin. C'était un peu comme ça. Alors certaines familles encore continuent ça en s'installant sur des matelas le soir du seder. Problème, c'est que le matelas est en général confortable. D'accord. Alors à nouveau, donc, la sieste auparavant est importante. Et puis également, il faut quand même ne pas trop s'étendre. Voilà. Maintenant, l'accoudement en général se fait de la manière suivante. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un verre? Très bien, voilà. Alors, la manière dont il ne faut pas faire, c'est la manière suivante. Comme je vous dis, vous avez l'assiette, vous avez la Haggada, etc. Et vous cherchez, malencontreusement, un endroit où poser cette partie du corps. D'accord? C'est en général un des trucs les plus difficiles à faire. C'est une erreur. Tout d'abord, le verre doit être pris dans la main droite. À part ça, être comme ça, c'est une des choses les plus désagréables du monde. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, ceci est une table, n'est-ce pas? Ceci est une table. Vous prenez la chaise. La chaise, d'habitude, est parallèle à la table. Eh bien non. Vous la mettez perpendiculairement à la table. Et vous vous mettez comme ça, et avec un manque de politesse extrêmement flagrant, vous vous tournez le dos à votre copain là, qui est sur votre gauche, mais vous ne vous en faites pas, s'il est intelligent, il fera la même chose que vous. C'est-à-dire que ça aura l'air d'un autobus. Et vous vous affalez de cette manière. C'est-à-dire, vous tenez la tête comme ça, et vous êtes bien à l'aise, là, le bras est sur la table, et vous prenez le verre dans la main droite. Ça fait déjà beaucoup plus à l'aise, voyez-vous. C'est la manière des festoyants dans les banquets de l'Antiquité. C'est comme ça qu'on faisait. D'accord ? C'est bien clair maintenant ? Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut s'accouder, que ce soit à l'aise. Oui.
Quand vous faites par exemple la première partie du céder sur des matelas, après aller manger à table ?
On peut.
Enfin, justement pour le principe de s'accouder.
On peut.
On peut.
Non. Bon, ça c'est la punition de ceux qui posent la même question plusieurs fois. Donc, vous êtes accoudé. À part ça, vous êtes patient. Vous ne commencez pas le seder tant que pas tout le monde a son verre rempli. On commence par le premier verre, qui est le verre du kiddush. Alors là, il y a également tout un sport un peu difficile, parce qu'il faut faire le kiddush debout et boire le verre assis et accoudé à la fois. Si vous ne vous êtes pas accoudé pour le verre, vous devez le reboire. Oui. Vous avez, c'est comme si vous n'avez rien fait, il faut refaire. Mais non, le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire aux gens, attention, accoudez-vous, parce que vous faites l'officiant, enfin le chef de famille a fait Boré Pri à Geffen. Vous ne pouvez pas parler tant que vous n'avez pas bu. Et alors, il y a en général le truc absolument ridicule, c'est d'accord. Alors tout ça, vous préparez à l'avance, tout va bien, d'accord. Oui, c'est très bien. C'est peut-être mieux.
C'est-à-dire que s'accouder, c'est presque plus important que boire le verre.
S'accouder, c'est faire signe de liberté. Je suis libre. Mais non, cette liberté, je la manifeste dans sept moments différents de la Haggadah, qui sont les quatre coupes, la Matzah, le Korech et la Ficomane. Voilà, c'est tout.
Pourquoi on doit revoir le verre, c'est ça,
parce qu'on n'a pas fait la Mitzvah. La Mitzvah doit être faite. La Mitzvah, c'est d'exprimer sa liberté. Donc, cette expression de liberté se fait dans une conjugaison de deux choses. Le fait de boire du vin, les hommes libres boivent du vin, et les hommes libres sont accoudés. Si tu ne fais que l'un des deux, tu n'es pas vraiment libre. Voilà, c'est une fête de liberté. C'est bien clair ? Bon. Ah, donc on fait le kiddush, on finit par boré par geffen, on s'assoit, on s'accoude et on boit. Est-ce que là vous avez suivi ? Très bien. Bon. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons passer à la deuxième partie du seder. Kadesh ou Rohatz ? Rohatz, c'est quoi ? Bon, on se lave les mains. N'importe quoi. Écoute, c'est déjà assez compliqué comme ça. Hein, pour que tu n'en rajoutes pas un grain de sel, comme ça, on ne veut pas que vous... Les gens, après, vont dire, on n'a pas étudié. Donc, Rohatz, on se lave les mains. Comment est-ce qu'on se lave les mains ? Il y a première possibilité, tout le monde se lève et fait un bouchon à la cuisine. D'accord ? Ça, c'est compliqué. C'est plus simple qu'on prenne une coupe, une sorte de bassin, et un verre, enfin, une attelin, enfin, le keli pour le lavage des mains, et une serviette. Et on passe de convive en... Merci. En convive. On passe de convive en convive. Si deux personnes le font, c'est encore mieux. Et chacun, disons, lave les mains à l'autre, c'est encore le mieux. Voilà, c'est également un signe de liberté. On lave les mains sans faire la bracha, à moins de soyez ménites. Et après, on passe au. Par passe. C'est même un jeu de mots. Enfin, c'est pas un jeu, c'est une rime. N'est-ce pas ? Comme on avait vu la dernière fois à propos du train, du fer à repasser, du moribond et la famille. N'est-ce pas ? Le train passe, le fer à repasser repasse. Et le moribond trépasse. Voilà. Donc on a dit, c'est ça, le train, le fer à passer, le moribond et la famille. D'accord ? L'un passe, l'autre passe, le troisième trépasse.
Très bien. Ça sort en plus, ça sort de chacun.
Et la famille ?
Surpasse.
Non ? Elle va bien, merci. Et bon, oui, c'est là, bon. Donc on passe du lavage des mains au carpas. Le carpas, c'est un aliment, c'est un légume frais. La tradition veut que ce soit le céleri ou le cerfeuil. Certains prennent le radis, certains même prennent de la pomme de terre, ce qui est absolument incroyable, parce que le but du karpa, c'est d'ouvrir l'appétit. Et en général, les pommes de terre, ça ferme l'appétit. Mais enfin, disons qu'il y avait des régions d'Europe, la Pologne par exemple, où c'était rare de trouver des radis frais à l'époque de Pessah, alors on prenait de la pomme de terre. Mais le mieux, c'est encore le céleri que l'on trempe dans de l'eau salée ou dans du vinaigre. Et qu'on distribue aux convives. Chacun prend du karpas. À quoi ça sert? À ouvrir l'appétit. Pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir l'appétit alors que d'habitude, se contenter de peu est une bonne chose? Eh bien, c'est que nous sommes des hommes libres. Or, les hommes libres mangent beaucoup. Donc, on ouvre l'appétit. Voilà, c'est le karpas. Après, on passe au shachatz. Mais non, vous avez remarqué que lorsqu'on mange le céleri en question, on le mange sans accoudement, mais pas accoudé. D'accord ? Après, on passe au yachatz. C'est quoi le yachatz ? On coupe la matza en deux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de couper la matza en deux ?
Pour montrer que qu'on est limité, malgré notre liberté, on est limité par rapport à ça.
C'est pas ça la raison du yachatz. La raison pour laquelle on coupe la matza en deux, c'est parce que la matza est appelée dans la Torah lechem oni, un pain de misère, un pain de pauvreté. Or, les pauvres ne mangent jamais un pain entier, ils ont un demi-pain. Donc, il y a une matza entière parce que c'est Yom Tov, et il y a une demi-matza parce que c'est un pain de pauvreté. Et puis, il y a la troisième matza qui est en dessous, d'après la plupart des minagim, c'est pour qui est lechem mishneh. Enfin, donc, on coupe la matza en deux pour s'acquitter de ce que dit la Torah, l'Echem Oni, un pain de pauvreté. Et il y a deux parties, il y a une grande et une petite. La petite partie, pareil, la petite partie de la matza reste sur la table, et la grande partie est mise de côté pour la ficomane. Elle est en général volée assez rapidement par les enfants. Quand les enfants volent la ficomane, à la fin du repas, quand on la cherche, elle est déjà en miettes. Que faire si la ficomane est en miettes, ou si on ne la retrouve pas, ou si les enfants ont des exigences mirobolantes pour la ficomane? Eh bien, on prend une autre matza. D'accord? Bien fait pour eux. Il a demandé un vélo plaqué or. Pas, non? Bon. La matza, évidemment, doit être de la matza Shmoura. C'est quoi la matza Shmoura? Elle a des règles particulières de préservation depuis le moment où on a fait la récolte. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manger une autre matza le soir du seder. Mais à chaque fois qu'il y a une mitzvah concernant la matza, là, ça doit être une matza de matza Shmoura. Il y a quatre moments où l'on mange. Trois moments où l'on mange de la matza. C'est pour motzi matza, pour le korer et pour la ficomane. Dans ces trois cas-là, la matza que l'on prend doit être de la matza shmoura. Si vous n'en avez pas beaucoup, faites attention de ne pas les laisser sur la table pendant le repas, parce que les gens vont vous la finir, il n'en restera plus pour la ficomane. Elle est en général meilleure, elle est en général faite de farine complète, ce qui n'est pas le cas de la matza habituelle. D'ailleurs, donc elle est plus facile à digérer.
La quantité de matza, c'est... Pour chacune des trois, c'est kazaï.
J'en sais rien. Quand j'y arriverai, je saurai. Merci. Bon. Comment ? On prend une des trois matzot qui sont... Il y a trois matzot qui sont sur la table. Ouais. Et le maître de maison, celui qui fait le céder, coupe la matza intermédiaire en deux. La petite partie, il la remet en place entre les deux matzot. La troisième, il la met de côté pour la ficomane. Et il se la fait voler. Hein?
Il la coupe en deux.
Oui. Ouais.
Et vous avez dit la troisième partie.
Non. Il y a trois matzot sur le plat du céder. Okay. Le plat du céder, il faut l'organiser à l'avance. N'est-ce pas? Alors, la première, la deuxième, la troisième. L'intermédiaire, c'est-à-dire la deuxième, le maître de maison ou celui qui fait le céder, la coupe en deux. Il prend la petite partie, il la met entre les deux matzot, entre la première et la troisième. Et la grande partie, il la met de côté. D'accord ? Pour la ficomane. Et il se la fait voler. Et donc, elle sera réduite en miettes. Et donc, il n'y aura pas le choix, il faudra prendre une autre matza. À moins qu'elle soit conservée dans une belle serviette spéciale, etc. On en fait des brodés aujourd'hui. Et comme ça, donc, au moins, ça sera en miettes, mais on la retrouvera entière. Oui. Alors, en général, elle sera cachée sous un matelas ou un truc de ce genre, et quelqu'un qui aura été se reposer à ce moment-là l'aura bien écrasée. Enfin, bon, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on prenait la matza, on continue, n'est-ce pas? Alors maintenant, il y a tout un... C'est là qu'on commence à raconter le récit de la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'on le fait? D'abord, on commence par le Al-Ahma'ania. Al-Ahma'ania. Alors, il y a ici une coutume courante en Afrique du Nord qui est de prendre le plat du Seder et de le mettre, de le faire passer sur la tête des convives. C'est en conformité avec un enseignement de la Mishnah qui dit qu'on enlève la table. C'est-à-dire qu'on enlève la table. Aujourd'hui, nous avons une table et sur la table, il y a un plateau. Mais dans l'Antiquité, ce n'était pas comme ça que se faisaient les repas. Le plateau, c'était la table. D'ailleurs, ça se fait encore dans la culture arabe, où les gens avec leur narguilé sont autour d'un plateau qui est soutenu par des petits pieds comme ça. Vous connaissez ça, un petit pied, voilà, marqueterie, tout ça. Et c'est là qu'on met le café, qu'on met les gâteaux, etc. Et puis quand on a fini, on enlève le plateau. Et alors les gens restent autour d'un tapis. Et c'est là qu'ils fument le narguilé. D'accord ? Et bien c'est comme ça que ça se faisait avant. Le plat, c'était la table. Il en reste aujourd'hui qu'on enlève le plat. Alors, on le fait tourner sur la tête des convives. Ça rime à quoi, cette histoire d'enlever la table? Ben parce que on a amené sur la table de quoi manger, et puis on dit non, on va raconter la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met le plat de côté. Ce qui fait que l'enfant va se dire, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire ce soir. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Ma Mishtana, Alaïla Azé, Nicolas Lelot. D'accord? C'est comme imaginer par exemple un type qui va être sacré chevalier par la reine d'Angleterre et qui arrive donc pour se présenter devant la reine d'Angleterre et puis il se rappelle « Oh, la vache, ce soir, c'est Pessah. » Alors il dit « Bon, au moins je vais dire une phrase « Manishtana, Laila, Azé, Mikol, Alelot. » La reine se rend compte qu'il se passe quelque chose et dit « Why is this knight different from the other knights ?» Pourquoi ce chevalier est-il différent des autres chevaliers? D'accord. Bon, mais... Non, mais c'est une vanne.
Ça,
c'est rafraîchissant comme ça. Ouais, c'est très bien. Bon, donc, de quoi est-ce que tu es venu alors, Bichlal? Pourquoi tu es venu? Puisque tu connais ce qu'on a. Ben, l'année dernière, on l'a déjà fait. Non, mais ben, bon, d'accord. Bon. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, donc, on arrive au plateau. Il y a certains disent Etmol Aïnou Avadim Aïnou Benechorin, etc. C'est pas imprimé dans les Agadot en général. Et puis, on ramène le plat et on dit le Halachma'ania. Dans Halachma'ania.
Comment ça explique pourquoi on tourne autour de la tête des gens?
C'est en souvenir des nuées de gloire en année Kavod. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous étions couverts de nuées de gloire. Et donc, en souvenir de ça, nous rappelons que nous avons quelque chose sur la tête. D'accord.
C'est le Soukot ?
Oui, mais Soukot, c'était à Pessah. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, c'était au printemps. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les nuées de gloire, en souvenir desquelles il y a la fête de Soukot. Le problème, c'est pas pourquoi est-ce qu'on le fait à Pessah. Le problème, c'est pourquoi est-ce que la fête de Soukot est déplacée de 6 mois. Ça, c'est bon pour la fête de Soukot. D'accord. Bon. Et donc on commence le Halachma'ania. Le Halachma'ania, c'est en araméen, n'est-ce pas? Halachma'ania diachalu avahatana be'arad et mitzraim kol dirfin ete dechul kol ditzrich ete veivsach hachatacha. Traduction, ceci est un pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte, que tout celui qui est affamé vienne manger, tout celui qui a besoin qu'il fasse le Pessah, nous sommes cette année ici. L'Eshana Abba, l'année prochaine, ah ça c'est des hébreux déjà. De Shana Abba, Be'ar'a de Israël, c'est en araméen. Ashata Ha'avde, cette année nous sommes ici esclaves, c'est à nouveau de l'araméen. De Shana Abba, l'année prochaine, Be'ar'a de Israël, Benechorin, dans le pays d'Israël, homme libre. Si vous voulez. Quoi? Il y a ici, bon, peu importe les dégâts. Bon, enfin bon. Oui, je lis ici, dans la version du Rav Mordechai Eliyahu, c'est à la page. 600 quoi? 626. Voilà. Alors quand on dit ça, évidemment, on montre les matzot, puisqu'on parle du pain de misère. Donc on découvre les matzot. Alors il y a tout un sport dans la Haggadah. Ici, on couvre les matzot, ici, on découvre les matzot. Vous avez remarqué? Ça passe. On découvre, on recouvre, découvre, on recouvre. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il faut découvrir les matzot d'abord? Parce que la Torah appelle les matzot l'Echem Oni, qui veut dire un pain. Non, ici ça veut dire maintenant autre chose. Non, un pain sur lequel on parle beaucoup. Oni nalav devari marbe. C'est-à-dire, ça veut dire à la fois misère, mais également ça veut dire parole. Donc c'est pendant qu'on va raconter la sortie d'Égypte, le pain en question est devant nous. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a plusieurs fois on s'occupe du vin. On prend du vin. Or, le vin est une insulte au pain. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand la Torah dit la louange d'Eretz Israël, on dit Eretz Chita ou Seora Vegefen. C'est un pain de blé, d'orge et de vigne. Donc la vigne vient après le pain. Donc si on lève une coupe de vin, le pain est vexé. Qu'est-ce qu'on fait? On le recouvre. C'est pour ça qu'on cache les chalot pendant le kiddush. Parce qu'on prend du vin en main. Et il y a du pain sur la table, il faut le couvrir pour qu'il n'ait pas la honte. La honte du pain est importante. Donc à chaque fois qu'on va s'occuper de vin, on va couvrir les matzot. Quand on aura fini avec le vin, on découvre les matzot. Vous avez compris le topo. Oui, ça se passe plusieurs fois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut, avant de commencer la lecture du Maggid, du récit de la sortie d'Égypte, on veut remplir une deuxième coupe de vin, n'est-ce pas? La première, on l'a déjà bu, maintenant on va remplir la deuxième. Parce qu'il faut qu'il y ait du vin sur la table quand on parle de la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant de remplir le verre? Il faut couvrir les matzot. Voilà. Une fois qu'on a rempli le verre, qu'est-ce qu'on fait? On découvre les matzot. Pourquoi? Parce qu'on va raconter la Haggadah. Et c'est alors que le petit gosse va commencer Manishtana, il va poser les questions qui ouvrent le récit de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe après quand il a commencé? Il est très honteux, il se cache sous la table, il est tout rouge, et il dit ne m'aidez pas ou aidez-moi, enfin, etc. Et finalement, ce n'est pas lui qui lit, c'est son frère. Qui crève d'envie de pouvoir se montrer qu'il sait lire le Manishtana et pas lui. D'accord? Une jalousie naturelle entre les enfants. D'accord? Donc, ça fait partie du truc. Et alors, donc, il lit le Manishtana, les quatre questions. L'ordre des quatre questions n'est pas le même dans la Haggadah Sepharad, dans la Haggadah Ashkenaz. Ça n'a aucune importance. D'accord? Bon. Quoi? L'ordre! L'ordre. 1, 2, 3, 4. D'accord? L'ordre des quatre questions n'est pas le même dans la Haggadah Sepharad, dans la Haggadah Ashkenaz. C'est pas dramatique. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, le maître de maison répond. Qu'est-ce qu'il répond aux questions de l'enfant? Avadi Mayinu, nous étions esclaves. D'accord? D'après la Mishnah, il faut commencer par ce qui est honteux et après parler de ce qui est noble. Matril Bignut Umseim Beshevar. Donc il faut commencer par ce qui était honteux avant la sortie d'Égypte. Et après, continuer par ce qui est noble dans la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait de honteux? Qu'on était esclaves, n'est-ce pas? Avadim, Aïnou et les pharaons de Mitzray. Nous étions esclaves de pharaons d'Égypte. Ah là là, quelle honte. Et après, on dit, Vayotsiyenu Hashem Eloheinu Misham. Et Dieu nous a fait sortir de là-bas. Ça, c'est ce qui est noble, n'est-ce pas? Ça, c'est la première version de la Haggadah. Vous savez que dans la Gemara, il y a deux opinions pour savoir qu'est-ce qui est honteux dans la sortie d'Égypte. Alors, la première opinion dit que c'est Avadim, Aïnou. Nous étions esclaves. Il y a une deuxième opinion qui dit, c'est que nous étions idolâtres. Regardez, à la page 630, dans la version du Rambam de Chaïlia, vous avez « Mitechila ovde avodazara yu avoteno »« Ve'archav kirvanu amakom la avodato » Au début, nos ancêtres étaient des esclaves, et maintenant, Dieu nous a rapprochés de son service. Marloket en Torah Vishmuel dans la Gemara, pour savoir de quoi a l'air la Haggadah. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans notre Haggadah à nous? Il y a les deux. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a adopté finalement les deux versions à la fois. L'une qui parle de l'esclavage et de la liberté, l'autre qui parle de l'idolâtrie et de la foi monothéiste. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Être esclave, quand on est esclave, on ne peut pas être serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Quand on est esclave, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Donc, il y a les deux à la fois dans la Haggadah. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Mais c'est la raison pour laquelle vous avez deux fois des séries de questions. Vous avez les quatre questions du Manishtana avant Avadimayinu, et vous avez les quatre questions des quatre enfants avant le Mitechila Ovde Avodazara. Parce qu'en fait, ce sont deux agadotes différentes qui ont été reliées ensemble après la période talmudique. Donc vous avez le Avadimayinu. Alors vous avez ici deux opinions. Il y en a qui lisent chacun son tour un petit morceau, il y en a qui lisent tous ensemble. Hein? Chacun un petit peu, il y en a qui lisent tous ensemble, il y en a qui traduisent. Il y en a qui traduisent le deuxième soir, il y en a qui traduisent le premier soir, il y en a qui n'ont qu'un seul soir. Comment ? En Israël, nous avons un seul soir de Seder. Ce qui est bien dommage, parce qu'en général, on s'endort dans le premier, on est éveillé pour le deuxième. N'est-ce pas ? Là, ce qu'il faut faire, c'est être éveillé pour le premier, puisqu'il est le seul. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire la sieste auparavant. Comment ? Bon, on traduit en hébreu moderne. Pas besoin de traduire. À moins d'essayer de traduire en judéo-arabe ou un truc de ce genre. Ou en ladino, ou en yiddish. Chacun son truc. Mais ça, ce sont des subsistances, des résidus de l'histoire ancienne. Donc, on lit la Agada. Donc, vous avez Avadim Ayenu, après vous avez Maaseh le Rabbi Eliezer, et après Rabbi Lazar Ben Azaria. Ça, c'est la fin de la première Agada. Après, vous commencez la deuxième, par Baruch HaMakom Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah Lamo Yisrael Baruch Hu. Keneged Arba Banim Dibra Torah. Et là, vous commencez par les questions des quatre fils, et après, vous avez la réponse de Mitechila Ovdei Avodah Zara Yuavotenu. Alors, évidemment, je crève d'envie de vous donner des commentaires de la Agada, mais si je le fais, on n'aura pas le temps. Donc, vous étudierez ça dans d'autres cours ou dans des lectures différentes. Comme je dis, chacun veut mettre son grain de sel parce qu'il y a un gosse qui a été au jardin d'enfants, il a appris un truc sur la Haggadah. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Albert ? Qu'est-ce que tu veux dire, Yolande ? Etc. Chacun a son Dvar Torah à dire. Un peu de patience, c'est la fête des enfants. Et c'est donc important qu'ils participent. Mais ne faites pas ça trop long. Les gens ont faim. Ils veulent manger. Vous arrivez, toujours à la page 630, Mitechila Ovdei Avodah Zara, Ve'archav Kevanu Hamakom La'Avodato. Dieu nous a rapprochés de son service alors que nous étions des idolâtres. Et puis, ça finit par Baruch Shomer Aftachato L'Amo Yisrael Baruchu. Béni soit celui qui a gardé sa promesse à son peuple Israël. Béni soit-il. Et cette promesse que Dieu a fait à Abraham de nous faire sortir d'Égypte, il nous a promis à l'avance que nous sortirions d'Égypte, c'est ça qui nous a soutenus. C'est là qu'on dit Vehi She'amda Lavotenu Velano. C'est elle, cette promesse, qui nous a soutenus, nous et nos ancêtres. Alors là, petit problème, c'est que quand on dit Vei She Amda, qu'est-ce qu'on fait ? On lève le verre. Vei She Amda, la voûte nous la. Mais avant de lever le verre, on couvre les matzot, on lève le verre. Vei She Amda, la voûte nous, velanu shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Pas un seulement s'est levé contre nous pour nous anéantir. Et là, chez Bechol Dor Vador, on dit malenu lechalotenu. Mais de génération en génération, on se lève contre nous pour nous anéantir. Mais le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains. Et là, on pose le verre. Qu'est-ce qu'on fait ? On découvre les matzot. D'accord ? On découvre les matzot. Et puis, et là, on commence à interpréter toute ce qu'on appelle le Mikra Bikurim. C'est l'histoire de Arami Oved Ali. De quoi s'agit-il ? Dans la paracha de Kitavo, dans la Torah nous dit quel est le texte que l'on doit réciter lorsqu'on amène dans le temple les prémices. En hébreu, Bikurim, n'est-ce pas ? On amène les premiers fruits de la terre. C'est quand dans l'année qu'on fait ça ? Non. À partir de Shavuot, on commence à amener, on peut amener les nouveaux fruits de la terre. Par exemple, vous avez une vigne, ben vous amenez vos premiers raisins au Beth Amikdash. Vous avez un verger de grenadiers, et ben les premières grenades, vous les amenez au Beth Amikdash. N'est-ce pas ? Lorsqu'on les amène, la Torah nous dit un texte qu'il faut réciter, qui s'appelle Mikra Bikurim, la lecture des Bikurim. Or, comme par hasard, ce texte que l'on raconte, que l'on doit réciter, parle de la sortie d'Égypte. Comme il parle de la sortie d'Égypte, c'est lui qui va être interprété dans la Haggadah de Pessah. On prend chaque verset et on l'interprète. Il y a toute une série d'interprétations qui sont amenées ici dans la Haggadah, que l'on lit. N'est-ce pas ? un des versets que l'on interprète, c'est le suivant. C'est... une seconde. C'est Uwe Moftim. Vous regardez à la page 636. Bon, dans la version du Ramour de Chaïliaou. On amène un des versets de la paracha de Kitavo qui dit que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec des miracles. En hébreu, Moftim. Quels sont les miracles en question? Alors, la Agada nous dit, vous y êtes là, tous, Uwe Moftim? Non, tu continues, encore. Et non, avant. Eh ben. Voilà, Uwe Moftim. Voilà, Uwe Moftim. Et l'Agada dit, Zé Adam, il s'agit du sang. Que Moshe Nehema, ainsi qu'il est dit, Venatati Moftim Bashamayim Uvaaretz, je mettrai des miracles dans le ciel et dans la terre. Dam vaesh et timrot hasham, le sang, le feu et des nuées de colonnes, des colonnes de fumée. Mais alors le problème c'est quand on fait ça. Alors il y a ici deux minagim. Il y a un minag ashkenaz et un minag sépharade. L'usage ashkenaz, c'est que on prend ce petit doigt, on le trempe dans le verre de vin. Et on enlève une goutte. On enlève une goutte. Quand on dit dame, vaesh, le feu, timrot hasham, les colonnes de feu. Le problème, c'est que comme c'est du vin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couvrir les matzot. Voilà. Maintenant, le minag séfarade est différent. Ce n'est que le maître de maison qui verse un petit peu, comme ça, du vin dans une coupe, enfin dans une sorte de cuvette. Dame, vaesh, timrot hasham. Et simultanément, il y a une autre personne qui verse de l'eau. D'accord? En même temps. Dame, Vaesh, et Timur Tachan. Non, si on commence par Dame, Vaesh, et Timur Tachan. Et alors, on continue. Davar Acher, Beat Hazaka, Shetaim. Autre opinion. Quand on dit dans une main forte, il s'agit de deux. Ou Vizroaz Ntuya, Shetaim. Quand on. D'un bras étendu, deux. Ouve Moura Gadol, une grande terreur, deux. Ouve Otot, avec des signes, deux. Ouve Moftim Shtaim, et avec des miracles, deux. Ça fait 5 fois 2, ça fait 10. Elou Esser Makot, ce sont les 10 plaies que Dieu a amenées à la Mitzrim et Mitzrayim sur les Égyptiens en Égypte. Les Elouen, et les voici. Alors là, quand on continue, si on est séfarade, si on est ashkenaz, on fait à chacune des 10 plaies, on enlève une goutte. De côté. Sur la nappe, par exemple. La belle nappe toute propre, ou bien dans une assiette, etc. Et si on est séfarade, c'est le maître de maison qui continue avec la cuvette en question et l'eau, n'est-ce pas? Il fait dame, tsfardéa, kinim, etc.
Après, il y
a une seconde, j'en sais rien, je ne suis pas encore arrivé jusque-là. Rabbi Yehuda yanoten baim simani, et Rabbi Yehuda donnait des initiales de cela, detzar, adash, beacham, on verse 3. Ça veut dire que vous avez versé 16 fois du vin. 16 fois du vin et de l'eau si vous êtes séfarade. Et il y a une coutume tunisienne qui est qu'à chaque fois qu'on dit une des 10 plaies, on rajoute une expression simsignéno. Simsignéno, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi en fait? C'est un mot qui ne veut rien dire, mais qui à l'origine vient de Hachem Ishmerenu Viatilenu, que Dieu nous préserve et nous garde, nous sauve, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous soyons sauvés de ce que faisaient de ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Simsilino, parce que les gens ne savaient pas ce que ça veut dire. Simsilino. Simsilino. Hachem Ishmerenu Viatzilenu. Hachem Yatzilenu. En fait, voilà. C'est un truc exclusivement tunisien. Voilà. Enfin, que j'ai adopté dans ma famille, puisque ma femme est tunisienne. Et enfin, c'est voilà. Bon. En tout cas, c'est la joie, c'est-à-dire que nous rappelons les 10 plaies d'Égypte, ouais, etc. Bon. Maintenant. Une fois qu'on a fini tout ça, ça c'est exclusivement séfarade, la cuvette en question, dans laquelle on verse le verre jusqu'au bout, est enlevée et envoyée à la cuisine. Certains font attention de ne pas dire un mot tant qu'on n'a pas versé le vin, parce qu'on dit que c'est un moment dangereux. C'est le moment où on est exposé aux plaies d'Égypte, donc on ne dit rien, on ramène. Maintenant, ce que fait le maître de maison, étant donné que son verre est déjà vide, on lui rince et il le remplit à nouveau. Et alors, maintenant, on peut découvrir les matzot. On a posé le verre et maintenant on découvre les matzot qui jusqu'à présent étaient couvertes. Voilà. Non, non, absolument pas. Peut-être que tu vas en trouver une, hein, mais enfin. Et alors on continue le texte de la Haggadah. On fait la liste des plaies d'Égypte. Il y en avait 10 qui étaient 50, qui étaient 200, qui étaient 250, etc. Ça vous fait un paquet énorme de plaies en Égypte. Ça vous fait en tout un chiffre assez impressionnant, 613 plaies, comme par hasard, correspondant à 613 mitzvot. Et alors, continuez allègrement. Vous avez le Dayenu, etc. Donc, peu importe, ça fait partie d'une interprétation de la Haggadah que je ne peux pas donner. Ouais. Le versement de vin, 16 en tout. Dam, Vaesh, Timrot, Hashan, ça fait 3. Après, vous avez les 10 plaies. Dam, Tsfardea, Kini, Marov, Dever, Shefin, Barad, Arbe, Rocher, Makab, Bechorot, ça fait encore 10. Et après, vous avez Detzar, Adash, Beachar, ça fait encore 3, ça fait 16. Non. Non, ce sont des minharim. Si personne ne le fait, ce n'est pas grave. Après, vous passez donc à Rabban Gamliel. Après le Dayenu, vous passez à Rabban Gamliel. Petite remarque, il y a toujours des versions différentes entre les différentes agadotes. C'est normal, ne vous en faites pas. Ça, chaque version a un sens. Mais enfin, disons, l'essentiel est le même. Hein. Par exemple... Oui, bien sûr, tout comme ça. Mais essentiellement, Ashkenaz et Farad. Mais c'est quasiment le même texte. Il y a par-ci, par-là, un piyout en plus, truc comme ça. Bon. Rabban Gamliel, Aya Omer. Là, vous avez à nouveau un texte tiré de la Mishnah. Rabban Gamliel disait, Kol Michelo Amar, Shlosha Dvarim, Elou, Bapesach, Le Hatzai, Le Chovato. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là à Pessah, à propos de Pessah, ne s'est pas acquitté de son devoir. Ve Elouen, et les voici, Pessah, Matzah ou Maror. Certains ont l'habitude donc de le dire tous ensemble. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas de dire les mots Pessah, Matzah ou Maror, c'est d'expliquer ce que c'est que le Pessah, la Matzah et le Maror. C'est quoi le Pessah? C'est le sacrifice. Pour un Pessah. Aujourd'hui, par nos péchés, nous ne mangeons pas le Corban Pessah, mais, Inch'Allah, Bimirabi, nous, peut-être cette année, nous aurons la joie de manger l'agneau pascal. Amen. Et donc, sur la table, vous n'aurez pas simplement le plat du céder, vous aurez un mouton. Un mouton. Ou un agneau, oui. Un agneau. Et également un deuxième sacrifice de Corban Chagiga. Ça peut être une vache, etc. Alors, on mange bien, quoi, ce soir-là. Et là, vous avez donc les deux. Mais.
Il y en a qui font là.
Quoi, l'agneau?
Non, mais pas grillé, pas grillé.
Quoi?
Je ne sais pas manger grillé. Je ne sais pas exactement, une sorte de corban. Pas de corban, mais de.
Tu veux dire le kashir hamis qui se fait la veille, n'est-ce pas? Certains ont le minhar. La veille de soir de Pessah, c'est avant, c'est le soir après l'abdicat Hametz, après avoir fait la recherche du Hametz. Certains mangent. Des pitotes avec de la viande grillée. Oui. Après l'abdicat Hametz. Une sorte de barbecue gigantesque, vous invitez toute la famille, vous avez mené des pitotes terribles, parce que attention, on ne va pas rentrer là-dedans, etc. Bon. Enfin, c'est la grande joie, c'est un souvenir en fait du Seder. Mais c'est un jour avant. On ne mange pas de viande grillée le soir du Seder. Pour ne pas faire de confusion avec le Corban Pessah, justement. Mais il en reste le 0A, l'os. Avec de la chair grillée qui est sur la table, mais on ne mange pas le soir du céder, cet os. Non, on ne le mange pas le soir du céder, c'est interdit. Quoi?
On ne mange jamais, on évite pendant.
Il y en a qui le mangent le matin, quoi?
On évite pendant le repas la viande grillée?
Non, on évite, on interdit la viande grillée pendant le repas, le soir du céder. Exception faite pour les juifs yéménites, qui eux mangent de la viande grillée le soir du céder en souvenir du Corban Pessah. N'est-ce pas? Mais l'usage dans pratiquement toutes les communautés d'Israël, égal à l'exception des Yéménites et de la communauté juive de Rome, c'est de manger de la viande non grillée, justement pour qu'on n'aille pas confondre avec le korban. Évidemment, si Inch'Allah Bimar Bimenu amène cette année, amen, on a le korban, alors vous aurez de l'agneau grillé ce soir-là. Voilà. Mais enfin, disons que, voilà, nous avons donc Pessah, Matzah ou Maror. Donc, la première explication concerne le Pessah. On explique qu'est-ce que c'est que le Pessah. Et alors, certains contemplent l'os, certains le prennent en main, profil problématique parce qu'on risque de penser que c'est le korban, mais enfin, si c'est le minhag, vous le faites. Pessar, chayu avotenu, ochim, chez Amidash Kaya, malchouma. Pourquoi est-ce que nos ancêtres mangeaient le Pessar en sortant à l'époque du Bet Amidash? Alors, on explique l'histoire de Dieu qui a enjambé les maisons d'Israël. Oui, quoi encore? Point interdit. On dit pas Pessarzé, on dit Pessar. Le mot Zé n'apparaît pas, tu vas se remarquer. Regarde, regarde dans le texte qu'il y a devant les yeux, là, 641. Page 641. Page 641. 641, c'est là où tu étais. Voilà. Pessar. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Chayou a voté. Il n'y a pas écrit Pessarzé. D'accord? Par contre, pour ce qui est, quand on arrive à la Matzah, on dit Matzah Zo. Cette Matzah là. Alors, vous avez différents minagim. Certains prennent la Matzah en main. Soit le maître de maison qui prend la matzah en main, qui dit matzazo. Certains font tout un remue-ménage, ils les font tourner, ils font passer d'une personne à l'autre. Et alors, l'expression utilisée chez les Tunisiens, c'est matzajo. Ouais. Jo. Parce que c'est matzazo, mais matzajo. D'accord? Et donc, ils jouent avec la matzah. C'est ça? Donc, on fait beaucoup de. Donc, on expose beaucoup de choses. On fait. Bon, des démonstrations. Également, quand on arrive au Maror, alors on prend le Maror en main, on fait un Maror Zé. Le minhag des Juifs d'Algérie, c'est de jeter une feuille de Maror par la fenêtre à ce moment-là, mais ne le faites pas si ça tombe un jour de Shabbat. Quand c'est un jour de Shabbat, on ne peut pas sortir quelque chose de la maison, mais si c'est un jour de Yom Tov qui se passe en semaine, alors ça vous pouvez. Comment?
Hein? Dans le jardin.
Jardin, c'est un problème parce qu'on n'a pas le droit de pas de planter, de fertiliser la terre. C'est comme de l'engrais, d'accord?
Et si on a un balcon, c'est...
Un balcon, alors ça va sur le balcon, voilà, du jet. Voilà. Mais en tout cas, à Alger, les rues d'Alger étaient remplies de feuilles de maror qu'on trouvait dans la rue le matin. Bon, marorzé. Et alors, on raconte l'histoire du maror. Et puis, on rajoute, Bechol dor vador, Hayav, Adam, Yarot et Tatsmo, Kilou, Yetzam, Mitzrayim. En toute génération, tout homme doit se voir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Et là, vous avez tout cela. À ce moment-là, on est en train de finir le Maguide. C'est, maintenant, la fin du Maguide est mêlée à un début du Hallel. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Or, tous les convives, hommes et femmes, doivent dire le Hallel à ce moment-là. Le Hallel, page 644. Est formé de différents paragraphes. On lit les deux premiers paragraphes. La suite du Hallel sera pour après le Birkat Hamazon. Vous avez donc ici quelque chose d'assez surprenant. Un Hallel qui se récite assis et pas debout, qui se récite à table, et qui a un repas au milieu. En plein milieu de... Imaginez, je sais pas, vous faites la Hamida, et puis au milieu de la Hamida, dites une seconde, je vais jouer aux échecs. Et puis après, vous continuez la Hamida. C'est à peu près ce qui se passe au soir du Seder. C'est un Hallel au milieu duquel se trouve un repas. C'est le moment où on consommait le korban. Vous comprenez l'importance de ce repas. C'est un repas d'une extrême sainteté. Et on dit donc les fichach, anachnu chayavim leodot le halel, etc. C'est pour ça que nous avons le devoir de réciter le halel. Et nous allons donc réciter Shira Hadasha, un nouveau chant. Alléluia. Et on commence le halel. Oui, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On s'est acquitté du début du Hallel. On n'est pas acquitté de l'ensemble du Hallel, on était acquitté d'une partie du Hallel. La deuxième partie qui est après le Birkat Hamazon, c'est la suite du Hallel. D'accord? Donc on dit les deux premiers paragraphes, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, qui finit par Emma Banim Semecha, Alléluia, et puis Betzet Israël Mitzrayim, qui finit par Chalamishlema Yenomaim. Et à ce moment-là, mais alors, il y a tout un problème, c'est que quand on récite le début du Hallel, qu'est-ce qu'on fait? On lève le verre. Qu'est-ce qu'il faut faire? 15 points. Okay. On couvre les matzot. À tous nos téléspectateurs, nous voyons déjà une lutte très serrée entre les différents participants. Donc. Et donc, on lève le verre en main pour dire les deux premiers paragraphes du Hallel, et la bénédiction qui vient après, qui finit par Gal Israël. C'est une bénédiction importante, qui dit à la fois que nous remercions Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte, et que nous espérons le jour où nous allons raconter un nouveau Hallel lorsque le Beit HaMikdash sera reconstruit. On finit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Et alors, on boit la deuxième coupe. On dit soi-même la bracha, donc je ne vais pas dire Amen. On fait tous ensemble la bracha. S'il y en a un seul qui l'a fait, alors on répond Amen. Et puis alors là, on boit la deuxième coupe. Petit problème. Est-ce qu'on fait Boré Pré Agafen ou est-ce qu'on ne fait pas Boré Pré Agafen? Ça dépend des Agadot. Il y a des Agadot. Alors ça dépend des Agadot. Chez tous les Ashkenazim, on fait Boré Pré Agafen. Chez les Sfaradim et les Yéménites, ça dépend. Il y a des communautés qui ne font pas Boré Pré Agafen, il y en a qui le font. D'accord? Oui, je sais bien. Et c'est l'opinion du Rif. Il y a ici, il y a tout un débat qu'on trouve dans la Halakha. Est-ce qu'il faut faire à chacune des quatre coupes Boré Pré Agafen ou seulement à la première et la troisième? D'accord? Là, pour la deuxième, donc, il y a une marloquette. Certains font, certains ne font pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, la deuxième coupe, il faut la boire comment? D'accord? Sinon, vous devez la refaire, aussi bien homme que femme. Si on est gaucher, ça ne change absolument pas. On s'accoude quand même sur la main gauche et on prend le verre en main droite. D'accord? Parce que c'est comme ça que font les hommes libres. D'accord? Bon. Donc, Gaal Israël, et on boit le deuxième verre de vin. Ce que l'on fait à partir de ce moment-là, on enlève les agadotes de la table. Sinon, de toute façon, vous avez déjà versé pas mal de vin dessus. Une agada sans tache de vin n'est pas une agada. Si vous voulez, même avant le céder, vous pouvez préparer. D'accord? Voilà. Voilà, vous avez toutes les agadotes. Voilà, tchac, des miettes de matzah aussi, c'est important. Un peu de rarosec. Ouais, bon. Oui. Bon, mais déjà, donc, vous enlevez les agadotes. Vous en laissez une pour le maître de maison parce qu'il a besoin de savoir ce qu'il va faire. Et alors, on se lave les mains. Comment est-ce qu'on se lave les mains? Vous avez deux possibilités. Soit tout le monde se lève et va à la cuisine et fait un bouchon. Et là, je rappelais que la première fois, c'était sans bracha. Là, c'est avec bracha. La deuxième possibilité, c'est qu'on prenne des cuvettes et des kélim et vous passez avec des serviettes. Vous passez de convive en convive. Le mieux, c'est qu'il y ait deux personnes qui le fassent. Comme ça, on a gagné le temps. Voilà. Hein? Et là, donc, vous passez à Orsa, on se lave les mains en préparation du motzi. Alors, pour ce qui est du motzi, alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va passer motzi matzah. C'est quoi motzi matzah? Ce sont deux bénédictions qu'on fait sur la matzah. À nouveau, problème pour la matzah, c'est qu'elle doit être mangée accoudée. Et donc, si on doit la manger accoudée, ça pose un problème parce que il faut, vous pouvez pas parler aux gens que vous voyez qui mangent sans accoudement. Vous faites, d'accord? Mais enfin, c'est comme ça que ça se fait. Le maître de maison prend les matzot, les trois matzot en main, enfin les deux matzot et demi en main, plus précisément. Et il fait amotzi lechem min haaretz. Après, il fait la deuxième bénédiction, asher kedeshan v'yusrota v'yisivanu al achilat matzah. Et alors, il prend un kazaït de la matzah. C'est combien un kazaït de la matzah? Vous avez différentes opinions. Disons que, de manière générale, l'opinion la plus plausible, c'est qu'il s'agit d'un tiers de matzah. De matzah à la machine. Certains pensent que c'est deux tiers de matzah. Certains vous diront que c'est une matzah entière. Folie. Parce que comment vous allez manger ça et après à respect et faire honneur au plat que maman a préparé.
Déjà un tiers, c'est pas possible.
Voilà. Bon. En tout cas, donc, si vous voulez faire des chumrot, vous en faites, mais cassez pas les pieds à tout le monde. On prend à peu près un tiers de matzah. C'est maintenant le maître de maison doit pour les sfaradim prend deux kazaït. Il en prend deux, un à cause de la matzah, un à cause de yom tov. Il en mange deux. Mais si le problème, c'est qu'en général, les matzot sont trop petites pour servir à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prépare à l'avance des paquets de matzot sur la table, que vous couvrez donc à chaque fois. Vous couvrez, vous découvrez. Ça fait donc beaucoup de paquets à couvrir et à découvrir.
On mange
tous
ensemble.
Ouais, ouais.
Tous les paquets,
c'est génial. Maintenant, vous notez, vous ne pouvez pas noter des X sur ce type qui s'est trompé, etc. Vous ne pouvez pas. Voilà, qui a couvert, c'est dommage. Peut-être que vous pouvez inviter un goy comme ça qui s'occupe de ça. Ah, voilà, ça. Voilà. Alors, Georges, ouais, deux erreurs, hein, tac. Bon. Ouais. Georges, c'est une posture, il s'appelle Gaston aussi, enfin, ouais, ou Gilbert. L'essentiel, ça commence par un G. Donc vous avez donc le balabait lui prend deux kazaïtes, mais les autres prennent un kazaït, ou deux s'ils le veulent, et vous mangez. Est-ce qu'on trempe ça dans le sel ou pas? Alors nos frères séfarades trempent dans le sel, nos frères ashkénazes ne trempent pas dans le sel. Comment ça, le pourquoi n'est pas important pour l'instant, nous essayons de traverser le seder. D'ailleurs, si quelqu'un a des difficultés à manger de la matzah comme ça, alors on peut mettre un peu d'eau, mais pas du vin ou du jus, etc. Dans de l'eau pour la rendre plus molle, plus facile à manger. Évidemment, de la matzah chmoura. Oui. Pour les sfaradis.
Oui, obligatoirement.
Oui. Mais attention, dans ce cas, tu veux prendre des petits. Mais non, si c'est des matzot faites à la main, les matzot faites à la main, en général, le kazaït est plus facile à ajuster. Voilà. Non, il n'y a pas de poids. C'est un volume. C'est un volume. Certains ont inventé que c'est le poids, mais c'est faux. On vous a dit l'histoire de poids. C'est faux. D'accord ?
Oui, ils vendent des pèses matzah.
Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas la peine de casser les pieds. Je vous dis d'abord quelle est la halakha. D'accord ? Bon. Après, on passe au maror. Le maror, alors on fait une bénédiction. À chaque qui déchire, nous nous souhaitons vite sivano à l'achilat maror. Si je veux que tout le monde s'endorme, oui. Oui. On fait Asher Kitchanu Minisota Vitsivanu à l'Achilat Maror. Et on mange du maror. On prend combien de maror? Un kazaït. Alors c'est quoi le maror? Le maror, c'est des feuilles de laitue romaine. Les Hollandais ont pour minag de prendre des endives. Il y a également une autre herbe qui est consommée par les Juifs de Syrie, ceux d'Alep. Et il y a également la racine de réfor qui est en usage chez certains de nos frères ashkénazes. C'est terrible. C'est le genre de truc à vous mettre par terre. Surtout, manger un kazaït de ça, c'est impossible. En tout cas, donc, le mieux, c'est la laitue romaine. Évidemment, vous faites attention que ça a été bien nettoyé avant, etc. Parce qu'il y a des verres. Il faut qu'il y en ait assez pour tout le monde. Il faut qu'il y ait deux kazaïtes par personne, puisqu'on prend pour le maror et après pour Korer. Lorsque vous mangez le maror, vous le mangez...
Non.
C'est l'amertume. L'amertume, c'est pas un truc de joie. C'est pas un truc de liberté. Donc le maror se mange assis. Non, pas debout, assis. Comme ça. D'accord? Après, vous passez au korer. Alors, dans le korer, c'est une sorte de sandwich. Pourquoi? Pour s'acquitter de l'opinion de Hillel. Mais attention. Là, j'ai oublié pour le maror. Le maror, on le trempe dans le haroset. Mais, on remue le haroset, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Pourquoi? Parce que sinon, on ne sent pas le goût du maror. Pour le korer, par contre, le korer, qui est l'opinion de Hillel, alors là, vous faites le sandwich, là, que tu as l'air de goûter comme ça, c'est de la matzah, un kazaït, du maror, un kazaït, et quoi? Un kazaït, et du haroset.
C'est quoi qui est dans quoi?
Aucune importance, c'est ensemble. Avant, la matzah était un truc plutôt tendre, donc ça se faisait, on mettait le korban. Comment est-ce qu'on faisait en antiquité? On prenait une sorte de pita, la matzah était une sorte de pita fine, comme ça, dans laquelle vous mettiez le korban, c'est-à-dire de la viande grillée, d'agneau, vous mettiez de la laitue, et puis le haroset. Le haroset, d'après certaines opinions, était du fort. Donc vous mettez tout ça ensemble, ça fait un truc juteux et très bon. Maintenant, le korer se mange...
Accoudé.
Contrairement au maror. Le maror tout seul se mange assis, le korer se mange accoudé.
Ouais.
Comment est-ce qu'on évalue un kazaït de maror? Un kazaït de maror, c'est à peu près une feuille et demie de laitue. Une feuille et demie de laitue, ça vous fait un kazaït.
Ça dépend des tailles des feuilles aussi.
Oui, je sais bien.
Il y a les grosses feuilles.
Oui, d'accord. Bah, c'est à peu près comme ça. Une feuille moyenne. Voilà. D'accord? Voilà. Hein? Quoi? Pour des tas de raisons historiques. Maintenant, une fois qu'on a fini avec tout ça, on prend le repas. Le repas, c'est Shulchan Orer. Shulchan Orer, ça se fait, évidemment, dans le sérieux. C'est un repas de fête, mais c'est un repas qui est au milieu du Hallel, rappelez-vous. Il est en souvenir du Korban Pessah et du Korban Chagiga. Une fois qu'on a fini tout ça, il est déposé en souvenir du Corban Chagiga. Une fois qu'on a fini tout ça, on passe à un souvenir du Corban Pessah. Comme nous n'avons pas de Corban Pessah aujourd'hui, nous n'avons pas de sacrifice, nous prenons à la place un kazaïd de Matzah, qu'on appelle Afikoman. L'Afikoman, comment est-ce qu'on le trouve? On l'a mis de côté, n'est-ce pas? Donc, on fait des promesses qu'on essaie de tenir, d'acheter un vélo plaqué or à l'enfant qui a volé ça, quoi. J'avais fait ça. Pas obligé. Enfin, ceux qui le font. En tout cas, on prend donc un kazaïd de l'Afikoman et on distribue à chacun. Évidemment, cette partie de matzah qu'on a mis de côté pour l'Afikoman ne suffit pas à donner un kazaïd à tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on fait?
On
en prend d'autres et on complète pour que ça fasse kazaïd. C'est-à-dire qu'un prend un petit peu et on complète à kazaïd. On complète à kazaïd et on le mange
à
coudé, n'est-ce pas? Une fois qu'on a fini avec ça, on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit. Quoi que ce soit, on a le droit de boire de l'eau et le vin après. Certains autorisent le café, mais manger, c'est interdit. Voilà. Et là, on fait le Birkat Hamazon. On fait le Birkat Hamazon. Non, le Birkat Hamazon, il y a un problème. C'est qu'en général, il y en a pour qui c'est très court, il y en a pour qui c'est très long. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire l'hébreu, etc., et on les attend, etc., tout le monde attend, et il a fini, voilà, celui-là, il n'a pas fait le Birkat Hamazon. Alors, ce qu'on fait, le mieux, c'est que ce soit le maître de maison qui le fait à voix haute, et les gens répondent « Amen » à chaque bracha. C'est le mieux. Une fois que vous avez fait... Mais attends, avant de faire le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait? On remplit la troisième coupe. On ne couvre pas les matzot. Pour une autre simple, c'est qu'il n'y en a plus. Voilà, on a tout. Peu importe. Donc, on remplit le verre. On fait Birkat Hamazon. Une fois qu'on a fini Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait? On boit la troisième coupe. Est-ce qu'on fait Boré Pré Geffen? Donc tout le monde fait le Birkat Hamazon, aussi bien Sepharad, Ashkenaz que Yéminit, tout le monde fait Boré Pré à Geffen et on boit la coupe comment? Accoudé. Très bien. Une fois qu'on a bu la coupe, qu'est-ce qu'on fait? Non, on remplit la quatrième coupe. Oui, on remplit la quatrième coupe et alors on commence le Hallel, enfin la suite du Hallel. Maintenant, l'usage est d'ouvrir la porte à ce moment-là et de dire Baruch Haba, bienvenue. À qui? À Eliyahu HaNavi, d'accord? Une fois que vous avez fini le Hallel, qu'est-ce que vous faites? Le Hallel est très long parce qu'il comporte également le Nishmat et le Hodou, la chaîne Kitov, qui est l'Am Chasdo. Il faut que tout le monde se réveille. Allez, maman, t'endors pas. Et Georgette, qu'est-ce que tu fais là? Il faut se réveiller. Tout le monde dit le Hallel ensemble. Hein? Tsafoun, c'est la Afikoman. Tsafoun, c'est on mange la Afikoman qu'on avait cachée. Tsafoun, ça veut dire quelque chose de caché. On l'avait caché, on l'a amené à table, et donc on mange la figure. Et alors, vous faites la suite du Hallel, qui finit par Melech Moulal Batish Bachot, Amen. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On boit la quatrième coupe. On fait Boré Pré Geffen ou pas? Ça dépend des Minagim. Ceux qui, il y en a qui disent, il y en a qui disent pas. Et on boit le quatrième verre, comment? Accoudé. À partir de là, il y a des tas de chants, en hébreu, en araméen, Hadgadia, tout ça. Ça, si les gens sont fatigués, partez. Les frères Sepharad lisent le Shir HaShirim, oui, on lit le Shir HaShirim après le Hallel, après le Seder, quoi. Ah bon, ben chez nous on lit
Parce que sinon tout le monde dort.
Non, alors on lit le Shir HaShirim et après on parle de la sortie d'Égypte jusqu'au petit matin.
D'accord.
Voilà. Hein? Si, enfin, on peut s'endormir en parlant de la sortie d'Égypte.
Il n'y a pas le choix.
Voilà. Eh bien, passez une bonne fête.